Stéphane Gallon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef économiste de l'AMF. Vous nous avez présenté la cartographie des risques 2020-2021, avec bien entendu un contexte particulier avec ce Covid-19. Commençons peut-être par ce qui a fonctionné durant la période. Vous nous avez dit que les marchés, la sécurité sur les marchés, au global, a fonctionné.
En effet, c'est une bonne surprise. Les marchés ont bien fonctionné, ils ont tenu, ils ont pu rester ouverts dans des conditions absolument exceptionnelles. Des volumes de transactions multipliés par 5 ou 3, pareil pour les ordres. Sur le post-marché, des difficultés notamment liées au fait que de nombreuses personnes étaient en télétravail et qu'il y avait des ordres très importants à traiter. Mais malgré cela, il y a eu des suspens un petit peu plus longs, mais tout a continué à bien fonctionner. De même, du côté de la gestion d'actifs, les fonds sont restés ouverts et liquides. Donc une expérience naturelle est plutôt rassurante pour nos infrastructures en France.
Quand on regarde dans le détail des actifs, concernant les marchés actions, qu'est-ce que vous pouvez en dire également sur la période ?
Alors ces marchés actions, ils ont d'abord commencé par baisser fortement et puis il y a eu un rebond. Et ce rebond est assez surprenant puisqu'il n'est pas vraiment relié aux nouvelles qui nous viennent de l'économie réelle et de l'activité où on a plutôt des nouvelles mauvaises. Et donc ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation puisqu'on a peur qu'il y ait une déconnexion entre les valeurs de marché et l'activité réelle et qui pourrait être du coup propice à de nouvelles corrections.
Donc là, vous nous avez cité notamment les décalages entre le price-earning ratio, comme on dit, et cette valorisation par rapport à l'économie. Alors, il y a un écart encore plus grand entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, mais malgré tout, on est au-dessus.
Oui, effectivement, quand on compare le prix des actions aux bénéfices qui sont escomptés, on a un ratio qui est record aux États-Unis avec un décalage important par rapport à la moyenne de long terme. C'est également très haut en France et en Europe, mais avec un écart qui est quand même plus faible.
Dans un environnement où les entreprises n'ont pas aujourd'hui, où vous l'avez signalé, très peu ont donné des guidance, compte tenu de ce contexte, compte tenu des refinancements qu'elles ont pu faire, mais surtout sur la visibilité, il y en a très peu qui ont donné de guidance, donc les analystes sont un peu dans le flou finalement.
Mais effectivement, il n'y en a plus qu'un quart qui donnait des guidance, qui continue à en donner, donc c'est très difficile pour les investisseurs d'avoir des informations appropriées et de faire les bons choix. Alors, on comprend évidemment que les circonstances soient exceptionnelles, mais nous estimons qu'il est important que les investisseurs aient accès à une bonne information et donc nous espérons voir ce chiffre remonter prochainement.
En termes de liquidité, qui est toujours un point important dans ces périodes de crise majeure, est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de risques ?
Alors pour les fonds d'investissement, comme je l'ai dit, ils sont restés liquides, donc nous estimons qu'il n'y a pas de risque particulier. On a vu une dégradation de la liquidité sur les marchés actions qui s'est améliorée depuis, mais on est loin d'être revenu au niveau pré-crise. Et ce qui est le plus inquiétant peut-être, et je terminerai par là cet aspect liquidité, c'est ce qui se passe sur les marchés obligataires où là il y a eu une très forte dégradation. Les banques centrales sont intervenues, ça a permis d'améliorer la situation, mais on est encore avec des indicateurs de liquidité qui sont très dégradés et on sait que ces marchés sont par nature fragiles, notamment sur la composante high yield qui est la plus risqué, pour laquelle par ailleurs il pourrait y avoir des perturbations compte tenu de futures dégradations d'émetteurs.
Ça sera donc à suivre du côté, puisque vous avez signalé un montant important, 600 milliards d'euros qui pourraient basculer du côté d'actifs plus risqués à yield.
Effectivement, au niveau mondial, on a un stock actuellement de 5 000 milliards d'euros de dettes notées BBB, donc juste à la frontière de l'investment grade et du high yield. Et lorsqu'on regarde la crise des subprimes, il y avait eu 11% qui avait été dégradé. Donc si on applique à peu près le même ratio, on arrive aux 600 milliards que vous mentionnez. C'est un montant tout à fait colossal.
Un point positif tout de même durant cette crise, c'est de nouveaux investisseurs sont venus, français. Vous avez signalé 150 000 nouveaux investisseurs. Même si vous ne leur donnez pas un conseil comme un conseiller d'investissement, pour vous, ils doivent être des investisseurs sur le long terme. Quand on vient en bourse, on doit être sur le long terme.
Oui, alors ce sont des investisseurs qui sont rentrés au bon moment quand les marchés avaient baissé. Donc, ils ont bénéficié de la remontée actuelle. C'est une bonne nouvelle pour eux. Cela étant, l'investissement à long terme, d'après nos simulations, est surtout intéressant à long terme dans une logique de constitution d'une épargne longue destinée à financer d'ailleurs des enjeux de long terme, épargner par exemple pour sa retraite ou pour la dépendance ultérieurement.
Alors, ces nouveaux actionnaires, globalement, quand vous donnez les chiffres de l'épargne et vous le faites régulièrement, les montants restent importants, mais c'est l'épargne disponible pour les ménages. Ça peut être sur des comptes de dépôt, ça peut être sur un certain nombre d'outils. Ce n'est pas forcément, de votre point de vue, sur le financement de l'économie. Ça a du mal à bouger, cette épargne-là, cette épargne française.
Il y a beaucoup d'inertie. Les ménages français préfèrent les placements sûrs et liquides. Malheureusement, notre économie, elle a actuellement besoin de fonds propres, donc plutôt des investissements longs et risqués. liquidité. Donc il faut trouver un moyen de concilier. On a un gros bassin d'épargne en France, c'est quand même une chance. Les besoins des entreprises dans le contexte actuel sont très importants. Il faut trouver les bons moyens pour que les épargnants puissent flécher cette épargne vers les besoins auxquels notre économie fait face actuellement.
Oui, est-ce que le mot peut-être pour le terminer sur ce sujet, le financement de l'économie, c'est bien sûr l'enjeu. Il y a eu ces PGE dont vous avez parlé aujourd'hui, ces financements pour les entreprises, mais c'est le sujet derrière, c'est comment elles vont pouvoir financer, elles vont sans doute s'endetter un peu plus. Donc comment on va pouvoir financer ces entreprises, quelles sont les pistes?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut plus de dette, il faut passer aux fonds propres. La dette, ça a été utilisée déjà massivement avant la crise, encore plus maintenant, puisque c'était la solution de court terme pour répondre aux problèmes de liquidité. Là, on a plutôt des enjeux de solvabilité, donc il nous faut absolument des fonds propres. Donc, la situation est très différente entre les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Ce qui nous semble intéressant, c'est d'essayer de traiter le cas le plus délicat des entreprises de taille petite ou intermédiaire. Ce sont des entreprises pour lesquelles il faudra sans doute trouver des solutions de mutualisation, puisqu'il sera intéressant pour les épargnants de pouvoir financer à un grand pool d'entreprises simultanément. Et dans le même temps, il faudra trouver un intermédiaire qui soit capable de faire de la sélection pour éviter de financer des entreprises zombies et uniquement des entreprises viables. Donc on imagine qu'un système comme un fonds qui mutualiserait l'épargne et qui serait géré par un intermédiaire qui est capable d'analyser ce type d'entreprise serait une bonne solution. Et peut-être pour répondre à la demande récurrente de nos épargnants français avec un système de garantie au moins partielle du capital.
Merci Stéphane Gallon d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci, au revoir.